Chapitre 52. La terre continuait de se métamorphoser à une vitesse effarante. L'eau tumultueuse de la Loire, en pleine débâcle, charriait d'énormes blocs de glace qui s'entrechoquaient comme des coques de bateau. Les arbres, qu'on croyait morts quelques jours plus tôt, se couvraient de bourgeons. Les fleurs, pensées, jonquilles, marguerites, s'épanouissaient sur les talus et les berges. Une herbe d'un vert de jade transperçait les derniers voiles de neige. Des ruisseaux grossis par les pluies bruissaient sur les pentes des collines, le suc des feuilles grimpantes, qui étendaient leur territoire dans les anciennes rues, se diluaient en fumerolles dans les flaques. La cavité creusée devant l'entrée du bunker s'était transformée en un bourbier qui interdisait désormais le passage aux camions chargés du ravitaillement d'eau potable. On avait dû monter en toute hâte une digue de fortune pour empêcher la mare de déborder à l'intérieur des salles du premier niveau. Le brusque afflux des masses d'air chaud au plus fort de l'hiver provoquait des orages dantesques. Les éclairs se succédaient à une telle cadence qu'ils paraissaient figer le ciel de leurs éclats de lumière. Les coups de tonnerre ébranlaient le sol et les murs. La foudre tombait sur les bâtiments les plus exposés, auxquels elle arrachait des pans entiers de ruines. Un mot revenait régulièrement dans la bouche des aquariotes. Apocalypse. Ismaïl avait beau leur expliquer que ces perturbations n'étaient que la conséquence d'un réchauffement brutal, ils ne parvenaient pas à les convaincre de l'aspect naturel, rationnel, des phénomènes. Ils ne pouvaient pas non plus apporter de réponse satisfaisante à la question qui lui était immanquablement posée. Si ce réchauffement n'est pas normal, qui en est le responsable ? « La Terre a sans doute besoin de se régénérer », expliquait-il. Ce que ses interlocuteurs interprétaient de la façon suivante. La mère nature exprime sa colère. La mère nature renie ses enfants. La peur avait supplanté l'euphorie des jours précédents. Le peuple de l'eau restait confiné dans les dernières salles du premier niveau du bunker. La tension augmentait avec l'inquiétude. Des disputes, des bagarres éclataient entre les voitures, les tentes et les remorques. On se chamaillait pour un morceau de viande, un litre d'eau, une bougie. Un regard mal interprété, un geste déplacé. Les chiens eux-mêmes montraient des signes de nervosité, tournaient comme des fauves en cage autour des hommes ou des femmes happés par les rixes, poussaient des grondements menaçants, claquaient des mâchoires à quelques centimètres des mollets. « Je crois bien qu'ils vont tous devenir fous, » dit Moram. Il observait, en compagnie de Solman et de Wolf, les rideaux de pluie qui étincelaient comme des rivières diamantines aux lueurs livides des éclairs. Le tonnerre martelait les collines avec une puissance phénoménale. La mare du fond de l'excavation atteignait déjà les trois quarts de la hauteur de la digue. Wolf avait retiré son manteau de cuir, mais gardé son passe-montagne. La lanière de son fusil d'assaut plaquait sa chemise sur son torse et soulignait sa maigreur. Des enfants se tenaient derrière eux, à la fois terrorisés et surexcités par le déchaînement des éléments. « Faudrait maintenant savoir ce qu'on fait », insista Moram. Les cheveux châtains qui se dressaient sur son crâne atténuaient en partie les rondeurs de son visage. « Pour toi, le programme est tout tracé, » fit Solman. « Tu ne m'as pas dit que tu allais te marier ?»« Je ne vois pas en quoi mon mariage changerait quoi que ce soit à la situation. »«
Je vais avoir besoin d'un chauffeur. »« Et tu auras beaucoup mieux à faire que d'être celui-là. »«
Un chauffeur ? Pour aller où ?»
Solman marqua un temps de silence. Il avait lu et relu le Nouveau Testament, mais cette fois, il s'était davantage intéressé à la vie du Christ qu'au verset de l'Apocalypse. L'Apocalypse était une prophétie qui se prêtait à toutes les interprétations, comme l'avait souligné Ismaïl. Les évangiles étaient un témoignage à quatre voix qui avait traversé les siècles. Ils racontaient aussi la vie d'un donneur, d'un homme écartelé entre son appartenance au monde de matière et sa nature divine. Certes, Ismaïl soupçonnait les copistes de l'Église romaine d'avoir remanié des passages pour de sordides questions de pouvoir, mais il n'en restait pas moins vrai que des vérités éternelles se cachaient dans ces lignes.
entre autres que la prostituée avait autant de valeur que le prêtre, que le pire des criminels méritait d'être sauvé, que chaque homme, chaque femme, chaque enfant avait sa place dans le cœur de Dieu, ou de Mère Nature, ou sur cette terre, quel que soit le nom qu'on veuille bien donner à l'intelligence créatrice. Khadija m'attend de l'autre côté du fleuve. Elle doit me conduire au grand rassemblement des tribus. Si Wolf demeura impassible, les yeux de Moram s'écarquillèrent de stupeur. Il tritura sans même s'en rendre compte les crosses des revolvers dépassant de la ceinture de son pantalon et enfoncées dans les plis bouffants de sa chemise. Khadija. Personne ne l'a vue depuis des jours. La vision m'est revenue ce matin, Moram. Je l'ai entendu me parler depuis l'autre rive du fleuve. Tu projettes de partir? D'abandonner ton peuple? Qui te parle de l'abandonner? Khadija m'a assuré que les aquariotes étaient en sécurité ici. Ils ont de l'eau, des réserves de vivres. Ils resteront sous la garde de l'ange et des chiens. Pourquoi tu ne les emmènes pas avec toi? Les yeux clairs de Solman se tendirent d'un voile trouble. Il y a certaines choses que je dois accomplir seul. Et qui sont ces tribus? Les 12 tribus de l'Escato, celles qui sont appelées à nous succéder sur cette terre. Portel de Dieu! Je te le dis d'honneur, personne ne prendra notre place si on ne le veut pas. Solman lança un bref regard à Wolf, qui, malgré les grondements de l'orage, ne perdait pas une miette de leur conversation. Il ne ressentait plus le besoin de renouer les liens l'unissant aux scorpiotes. La mort de Raïma et la lecture du livre avaient pansé ses blessures secrètes, l'avaient laissé en paix avec ses souvenirs, avec son enfance. Je crains que la volonté ne suffise pas.
Qu'est-ce que t'as de mieux à proposer, boiteux?
Un éclair bleuté, splendide, demeura suspendu pendant quelques secondes sur le fond noir du ciel. Je partirai vers le nord dès que la pluie aura cessé de tomber et qu'un camion pourra traverser cette mare, répondit Solman.
Une petite minute, protesta Moram. Les camions ne sont pas encore prêts à rouler à l'essence.
Je prendrai celui dans lequel vous avez transféré tous les restes de gaz.
C'est-à-dire à peine de quoi faire 400 kilomètres. Et puis, ton peuple en a besoin pour se ravitailler en eau.
Une bonne raison pour que les chauffeurs se pressent de remonter les réservoirs et de régler les moteurs.
Moram grimaça, roula des yeux furibonds, écarta les bras à plusieurs reprises, mais ne trouva rien de mieux pour exprimer son désarroi que de les laisser retomber lourdement le long de ses hanches. Comment tu comptes franchir ce putain de fleuve?
La débâcle est amorcée, et les Chelns savent fabriquer des barges.
Des barges. Faut attendre encore une ou deux semaines. Les morceaux de glace sont serrés, plus gros que des remorques. Et puis, tu gaspillerais pas mal de gaz et de temps pour aller chercher un autre passage. Si mes souvenirs et mes calculs sont exacts, je ne connais que deux ponts encore debout sur le bord de sud. Le premier sur la piste de l'ouest, à 200 kilomètres d'ici. L'autre sur une piste à l'est, à plus de 250 bornes.
Les enfants, figés dans la pénombre, écoutaient de toutes leurs oreilles. De temps à autre, ils lançaient un coup d'œil inquiet en direction de l'ange dont ils entrevoyaient la silhouette élancée au fond de la salle. Les lueurs rageuses des éclairs fouettaient les troncs cylindriques des saulbots alignés le long d'un mur, allumaient des étoiles dans les yeux des chiens allongés sur le béton. « Inutile de discuter, Moram. Ma décision est prise. Je te demande seulement de me trouver un chauffeur, un bon de préférence. » Et de voir auprès des Chelns s'ils peuvent fabriquer d'urgence une barge assez solide pour supporter le poids d'un camion.
Qui d'autre partirait avec toi?
Solman désigna Wolf d'un mouvement de tête. Je suppose que mon ange gardien se fera un devoir de veiller sur moi jusqu'au bout.
Et si aucun chauffeur ne veut, tu dois m'en trouver un, c'est un ordre.
Moram fixa le donneur d'un air de défi, ses gros poings serrés le long de ses cuisses.
Puis après avoir hoché la tête à 5 ou 6 reprises, pivota sur lui-même et égaya les enfants d'un coup de gueule tonitruant.
La pluie avait cessé,
le ciel s'était dégagé. Les hommes Schön, accompagnés d'une vingtaine d'aquariotes équipés de haches, de masses, de scies, de ciseaux à bois, de cordes, s'étaient rendus sur la rive du fleuve pour examiner les arbres, des chênes ou des hêtres le plus souvent, qui bordaient le cours d'eau. Les coups de hache retentissaient à présent dans l'air purifié par l'orage, entrecoupés d'âhnements et des grincements sourds des scies. Moram avait rencontré des réticences lorsqu'il avait exposé aux autres le projet du donneur, mais il avait compris qu'elles n'étaient que les reflets de son propre trouble. Il avait donc corrigé le tir et mis davantage de conviction dans ses paroles. Il leur avait rappelé que, sans Solman, ils ne seraient plus, à l'heure actuelle, que des cadavres pourrissants dans le relais de Galice, sur les versants du massif central, ou dans les ruelles de la ville fortifiée. Ils avaient fini par se rendre à ses arguments. Les Schön en premier, qui, fraîchement secourus, se saisissaient de l'occasion pour régler leurs dettes envers le donneur aquariote. Les chauffeurs avaient accepté de se séparer du seul camion en état de marche, de démonter sa citerne, lourde et inutile dans ces circonstances, de la remplacer par une remorque légère dont ils avaient dévissé les roues et fixé le plancher au châssis. Les intendants avaient préparé des réserves d'eau et de vivres pour 4 personnes et pour 2 mois. Perdu dans ses pensées, Moram se rendit à la voiture où logeait Aura. Elle sortit avant même qu'il ne pose le pied sur le marchepied, descendit à sa rencontre, se jeta dans ses bras et l'embrassa avec une gravité inhabituelle. « Monte, » dit-elle. « Je suis seule. » Les autres sont partis vider la mare et consolider le terrain à l'entrée du bunker. Moram la suivit à l'intérieur de la voiture. Des parfums et des odeurs de femmes imprégnaient l'air confiné, d'autant que la sourcière avait fermé toutes les vitres. Des matelas jonchaient le plancher dans le plus grand désordre, mais la couchette principale, celle qui contenait le lit à 2 places, était propre, bien rangée, et le matelas recouvert de draps frais. Elle s'empara des revolvers de Moram, les déposa sur la table scellée au plancher, puis le dévêtit sans un mot, le priant seulement de s'asseoir pour qu'elle puisse lui retirer ses bottes. Elle se déshabilla à son tour avec solennité, avec également une certaine tristesse qu'elle s'efforçait de masquer sous un sourire mutin. Le prit par la main et l'entraîna sur la grande couchette dont elle tira les rideaux. Ils firent l'amour en silence, avec une lenteur exaspérante où perçaient déjà les prémices de la séparation, de l'absence. Le bruit court que le donneur part vers le nord, murmura-t-elle essoufflée, en sueur, la tête posée sur l'épaule de Moram. Et qu'il a besoin d'un chauffeur ?
« C'est ce qu'on dit, » fit-il, évasif.
« On sait. Qui s'est porté volontaire ?»«
Pas encore. C'est à moi de le désigner. »«
Si tu ne l'as pas encore fait, c'est que tu veux être celui-là, non ?»
Il se redressa sur un coude et la fixa avec intensité. Elle lui parut plus belle que jamais, avec ses cheveux en désordre, ses yeux brillants, ses traits détendus, épurés par l'abandon. « Je veux rester avec toi, » répondit-il, la gorge sèche. « Me marier avec toi. »
« Si tu ne pars pas avec le donneur, je sais que tu le regretteras toute ta vie. Je sais que tu ne seras plus jamais le Moram que j'aime. Je ne crois pas au hasard. Tu t'es engagé dans un chemin, tu dois le parcourir jusqu'au bout.
Et si au bout il y avait la mort ?
Elle l'embrassa pour lui cacher sa détresse, la montée de ses larmes. Je t'attendrai jusqu'à la fin de mes jours. Et si tu ne reviens pas, je te rejoindrai dans l'autre monde.
Il aurait voulu parler, la remercier de sa générosité, l'assurer de son amour. Il resta tétanisé sur le matelas,
la gorge et les muscles noués, incapable de prononcer une parole, d'esquisser un geste. Bien sûr, il n'avait pas envisagé d'autre chauffeur que lui-même. Bien sûr, il aspirait à suivre le donneur dans son dernier périple. Bien sûr, les regrets l'auraient harcelé jusqu'à sa mort s'il n'avait pas répondu à l'appel. Mais un modèle, un seul, et il aurait renoncé à partir sans hésitation. Il se serait accommodé de sa frustration, il se serait interdit de lui en vouloir.
Pourquoi tu... balbutia-t-il.
Je n'ai pas l'impression de me sacrifier, si c'est ça qui te gêne. Je pense à moi, au contraire. Je veux d'un mari qui soit allé jusqu'au bout de lui-même. Comme toi, tu voulais d'une femme accomplie, pas d'une épouse fâchée avec elle-même. Sinon, tu ne m'aurais pas encouragé à exercer mon don. Tu ne m'aurais pas empêché de me déclarer ex-don. Tu avais besoin d'une compagne dont tu sois fier, pas vrai?
Tu n'es pas fier de moi?
Elle se releva et s'agenouilla à son côté. Bien que plus petite que lui, elle lui parut immense. Elle le dominait de toute sa stature, de toute son impudeur, de toute son odeur, de toute sa beauté. « Je t'aime comme tu es, » dit-elle. « Et tu es Moram le chauffeur, l'ami du donneur. Tu es l'homme dont il a besoin pour accomplir son destin. » Elle était très jeune, à l'orée de sa vie, et pourtant, il avait l'impression d'être un enfant devant elle. Il embrassa son corps d'un regard chaviré, brouillé par les larmes. Les deux Schöln et leur traductrice Jeska s'avancèrent vers Solman, Moram et Wolf. Jeska avait changé depuis le jour où le peuple de l'eau les avait recueillis, elle et les siens, dans le défilé du massif central. Ses joues s'étaient remplies, ses cernes s'étaient effacées, ses cheveux dénoués avaient gagné en volume, en brillance. La femme vieillie avant l'âge qui avait empêché son mari de faire feu sur ses trois interlocuteurs aquariotes avait recouvré ses formes, ses couleurs, sa jeunesse, sa vigueur, sa joie de vivre. Solman se rendit compte que les Schöln avaient construit deux radeaux, un petit et un grand. Ils avaient lié des troncs et des branches maîtresses élaguées avec des cordes et consolidé l'ensemble avec des branches plus fines clouées en travers. Les rayons du soleil tombaient en colonnes obliques entre les nuages de traîne. La plupart des derniers hommes se pressaient sur la rive sablonneuse de la Loire. Ils avaient surmonté leur inquiétude pour affronter le temps incertain et assister au départ du donneur. Deux chauffeurs avaient amené le camion quelques minutes plus tôt. Malgré les pierres et les autres étais, ils s'étaient embourbés à plusieurs reprises au sortir du bunker et s'étaient enrobés d'une épaisse couche de boue qui, en séchant, lui donnait des faux airs d'animal préhistorique. La remorque bâchée paraissait perdue sur l'imposant châssis rouillé, réservé d'habitude à la citerne. Les morceaux de glace charriés par l'eau grondante du fleuve se heurtaient dans un concert de craquements sourds. Un des deux Schöln parla en néerlandais et s'interrompit pour laisser le temps à Jeska de traduire. « Courant trop fort, » dit-elle. « Deux radeaux, un grand pour camion, un petit pour première traversée. Pour tendre corde au-dessus du fleuve. « Pourquoi cette corde ?» demanda Solman. « Parce que grand radeau trop lourd pour diriger, avancer accroché à la corde. » répondit Jeska après avoir posé la question aux Schöln et écouté avec attention leur réponse. « Le petit radeau ne risque pas d'être emporté ?»«
Non, non. Eux dirent pouvoir traverser avec... rame. »«
Ce sont eux qui vont s'en charger, nous, Schöln. Devoir envers toi, donneur. »«
Eux traversaient d'abord, quatre autres traversaient après, sur grand radeau. » « Eux faire ça pour toi. »
Il les remercia d'un mouvement de tête. Elle sourit, lui prit les mains et s'inclina jusqu'à ce que ses lèvres lui effleurent les paumes. Les deux Schöln attachèrent une extrémité de la corde, en fait une dizaine de cordes épaisses liées les unes aux autres, à la branche d'un chêne, l'autre à un tronc du petit radeau. Se munirent de leurs rames, de longues perches de bois dans lesquelles ils avaient fiché de larges plaques métalliques, puis mirent l'embarcation à l'eau. Ils parcoururent sans encombre le quart de leur trajet avant d'être happés par le courant. Ils ne cherchèrent pas à s'opposer à la puissance des flots, mais à accompagner le mouvement, à anticiper et à esquiver les trajectoires des blocs de glace. Grossis par la fonte des neiges et les pluies diluviennes des jours précédents, large à cet endroit d'une centaine de mètres, la Loire écumait, ondulait avec l'impétuosité d'un torrent, se hérissait de gerbes d'écume qui engloutissaient par instants les piles de l'ancien pont. Le radeau, entraîné en direction de l'ouest, gagna peu à peu le milieu du fleuve. La corde se dévidait dans un sifflement continu, et Solman craignit qu'à cause du courant, les deux chelnes ne l'aient pas prévue assez longue pour atteindre le bord opposé. Ils se démenaient avec une rare énergie sur les troncs par instants submergés, piquaient leurs perches sur les morceaux de glace les plus menaçants, à la fois pour les dévier et pour corriger la dérive du radeau, plongeaient les plaques métalliques dans l'eau afin de grappiller les maîtres. Ils disparurent dans les voiles d'écume qui scintillaient à l'entrée du premier méandre. Des hommes et des enfants gravirent en courant les versants des collines, mais pas davantage qu'en bas, encore moins qu'en bas. Ils ne réussirent à distinguer l'embarcation dans le moutonnement bouillonnant. La corde se déroulait avec une régularité de métronome. Elle était désormais le seul fil qui reliait les deux chelnes aux derniers hommes.